Avoir raison avec Françoise Giroud, une émission de Caroline Brouet réalisée par Olivier Bétard.
Je vous dirais que dès le début, j'ai dit que je dérangerais. Je l'ai même écrit. En 1974, au fond, j'étais un sujet d'amusement. En 1975, je suis devenue un sujet d'inquiétude. J'espère en 1976 être un sujet de satisfaction.
Le journaliste Jean Daniel disait d'elle qu'elle était une volonté armée d'un sourire. Quand elle parle d'elle comme d'un sujet d'amusement, d'inquiétude ou de satisfaction, Françoise Giroud est alors secrétaire d'État à la condition féminine du président Valéry Giscard d'Estaing et elle s'interroge sur la manière dont elle est perçue dans le milieu politique, elle qui a jusqu'alors été journaliste et l'une des meilleures de sa génération, au dire de ses pairs. Directrice de la rédaction du tout nouveau magazine Elle en 1950, Françoise Giroud reste celle qui a fondé avec Jean-Jacques Servan-Schreiber l'hebdomadaire L'Express en 1953, devenant de ce fait la première femme journaliste à la tête d'un hebdomadaire politique. Une femme libre, a-t-elle écrit dans son récit autobiographique. Mais le fut-elle autant qu'elle le voulait? Elle qui, passant de l'ombre à la lumière, a créé un personnage auquel elle a dû rester fidèle, entretenant sa vie durant des mystères, voire des mensonges sur ses origines et vivant une double passion intime et professionnelle qui a bien failli la perdre. Quelle empreinte laisse celle qui a été un modèle pour de nombreuses femmes et de nombreux journalistes? L'est-elle encore modèle, tant dans son rapport aux femmes, aux médias, qu'au pouvoir? Telles sont les questions que nous allons aborder ce matin, tout d'abord avec Alix de Saint-André. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes journaliste et écrivaine, vous avez été très proche de Françoise Giroud, vous êtes une grande amie de sa fille Caroline Eliacheff. Vous avez écrit en 2013 « Garde tes larmes pour plus tard » chez Gallimard, qui est une enquête presque pour établir ou rétablir la vérité sur les origines familiales de Françoise Giroud, origine qu'elle avait longtemps tenue secrète et qui avait fait l'objet de commentaires et de polémiques. On entendait dans cette archive Françoise Giroud dire que de toute façon elle avait dit qu'elle dérangerait toujours. Est-ce qu'elle a toujours dérangé?
Oui, et le premier qu'elle a dérangé c'était son père. Car son père voulait avoir un garçon. Et manque de bol, c'est Françoise qui est née, c'était une fille, elle est née... Alors, il faut peut-être qu'on rappelle un peu les choses, elle est née le 21 septembre 1916 à Lausanne, où ses parents étaient réfugiés, politiques en grande partie.
Turcs d'origine.
À l'époque, on disait pas turc, on disait ottoman. Mm. Et il venait de Constantinople, qui n'était pas encore Istanbul. Et son père était le premier journaliste de la famille, en fait. C'était son père qui avait une agence de presse qui correspond à peu près à l'agence France Presse, mais pour Constantinople, hein, qui lui avait été piqué par quelqu'un, évidemment, qui lui avait été volé, parce qu'il s'était, comment dire, il avait fait la révolution avec les jeunes Turcs. Il avait cette image de la France. Lui, la France, c'était son modèle. Liberté, égalité, fraternité. Il avait été élevé en France. Il s'était marié en France. Il avait la France pour passion. Et à l'époque, justement, dans l'Empire ottoman, ils ont essayé d'appliquer la recette française. Et grâce à des jeunes révolutionnaires comme lui au départ, en 1906, il a rencontré Clémenceau à Paris. Donc ce père était à la fois un homme politique, il était déjà dans la politique, il était dans le journalisme puisqu'il écrivait d'ailleurs des articles, sauf qu'il avait tout perdu. Et il lui naît une fille, alors là vraiment c'était la fin des haricots.
C'était la fin des haricots, mais elle s'est bien rattrapée d'ailleurs en devenant journaliste, puis en entrant dans le monde politique. Alors vous, Alix de Saint-André, vous l'avez rencontrée, vous l'avez connue, disons en 1987, vous aviez 30 ans. Dans quel contexte l'avez-vous rencontrée? Rappelez-nous ça.
C'était assez drôle parce que moi j'ai fait le parcours inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé au Figaro, qui était un journal politiquement à droite, et je suis allée en plus après à Elle pour me libérer. Donc j'ai fait le parcours journal politique au milieu des garçons. Et après, je suis allée retrouver le journal Elle, qui était à l'époque dirigé par Anne-Marie Perrier, qui disait de Françoise Giroud, elle n'a jamais écrit une connerie. Ce qui est quand même une belle définition, et je pense que déjà la barre est assez haut. Voilà. Et donc, à l'époque, j'étais au journal Elle, et Françoise Giroud venait d'écrire une biographie d'Alma Mahler, la femme du compositeur, qui était une bonne femme épouvantable, qui avait épousé un génie, qui, elle, était une horreur, et qui en plus imaginait qu'elle allait écrire trois notes à côté de son génie. Enfin bref, j'étais remontée comme des pendules sur le livre et la rédaction. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller interviewer Françoise Giroud puisqu'elle sort un livre. Et à ce moment-là, elle n'était pas du tout considérée par les femmes comme un modèle. C'était assez étonnant parce que moi, je pensais...
Déjà en 87.
Oui, mais alors en 87, si vous voulez, elle avait été ministre des femmes, mais c'était Simone Veil qui avait passé la loi sur l'avortement, qui était la loi historique. Elle était une femme de pouvoir, elle n'écrivait plus.
Elle avait été ministre de la culture, mais sans laisser une trace indélébile, manifestement.
Oui, tout ça, elle était un peu, comment dire, elle était plus à la mode. Et j'étais dans un journal de mode. Donc, ce que j'avais pas réalisé, moi, je croyais que c'était quelqu'un de très respecté. Et donc, on m'a dit, écoute, oui, tu peux y aller, mais alors tu lui rentres dans le chou.
Et vous avez dit, banco, je vais lui rentrer dans le chou.
Oui,
je vais aller
en
là-bas.
Plus, en même temps. C'était un peu, oui, c'est un peu de ces figures tutélaires qui sont justement, quand on a 30 ans, pas, et qu'on maîtrise son métier aussi par d'autres voies, un peu agaçantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, il y avait un côté challenge, il y avait un côté, bon, je vais lui rentrer dans le chou. En plus, Alma Mahler était un personnage très antipathique, donc j'avais matière à l'attaquer pour avoir fait le portrait de cette horreur.
Donc vous arrivez dans cet état d'esprit et là vous découvrez une femme forte et fragile à la fois, en tout cas qui vous a beaucoup ému et vous êtes devenue amie.
Je suis arrivée pour lui rentrer dans le chou et je suis tombée sur une petite dame qui faisait vieille dame, qui marchait à tout petit pas, qui avait sur les lèvres des traces de blanc, et j'avais déjà vu des gens qui avaient de la dépression, vous savez, des traces de médicaments, qui marchait à tout petit pas, qui m'a dit gentiment, est-ce que vous voulez que je vous fasse un thé? Tout d'un coup, je me suis dit, oulala, j'ai remballé
ma
machine de guerre, et elle est allée à petits pas, elle m'a apporté un thé, elle m'a offert un thé, et elle parlait avec difficulté. En fait, j'ai appris après que c'était après la mort d'Alex Graal et qu'elle était en pleine dépression.
C'était son dernier compagnon.
Oui, et qu'elle avait aidé à mourir en accord avec lui, mais qu'on n'aide pas, comment dire, c'est pas impune, comment dire, on ne fait pas ça impunément comme elle l'a écrit, beaucoup mieux que je ne le dis. Et après, elle a une espèce de contre-coup de dépressif après la mort d'Alex Graal, et je tombais en plein là-dedans, quoi. Donc elle avait réussi à écrire un livre, mais dans la vie de tous les jours, souvent d'ailleurs les gens ne s'en rendent pas compte, elle était, donc c'est l'interview, au lieu d'être une interview bing et boum, c'était plutôt à la fourchette, à escargot, quoi. C'était lent, c'était très intéressant aussi. Et bon, et comme quand même, donc ça avait parlé, de toute façon, ça parlait des femmes, ça parlait d'art, pour le magazine Elle, c'était de toute façon parfait. Et je lui apportais les osalides, donc c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. Elle le savait très bien et mieux que moi. Sauf un mot, on peut changer, juste faire du place pour place. Et elle m'a dit, vous avez travaillé comme un ange. Ce qui était un compliment.
Bon, venant de sa part, on y reviendra, effectivement, dans la
considération. Et on avait une amie commune.
Journaliste.
On avait une amie commune qui était photographe, Micheline Pelletier, la femme d'Alain Decaux. Et Micheline Pelletier m'a dit, écoute, Françoise, avec ton nom, elle croyait voir arriver une dame de 60 ans, tailleur Chanel, et elle a vu arriver un petit clown. Donc voilà, et elle m'a dit, tu devrais aller la voir parce qu'elle s'ennuie, tu devrais aller la distraire. Ça ne me serait jamais venu à l'idée autrement.
Alors de la même façon que vous arrivez à ce moment-là dans une période où elle est dépressive, Françoise Giroud, quelques années plus tôt, quelques 27 ans plus tôt, en 1960, elle a fait une tentative de suicide après que son amour de toujours, Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'a mise à la porte de l'Express pour d'obscures raisons sur lesquelles on ne va pas forcément s'étendre aujourd'hui, Alix de Saint-André. Mais après cette histoire, elle a écrit un récit autobiographique que vous avez retrouvé en faisant vos pérégrinations pour votre propre livre, Dans le grenier, Histoire d'une femme libre. Et les premiers mots de cet ouvrage, écrit donc par Françoise Giroud, c'est « Je suis une femme libre, j'ai été, donc je sais être, une femme heureuse. Qu'y a-t-il de plus rare au monde ?» Elle l'a écrit donc en 1960, lors d'une période fortement dépressive. J'aimerais juste que vous me disiez ce que vous pensez de cette affirmation « Je suis une femme libre ». Est-ce que pour vous, Françoise Giroud a été aussi libre toute sa vie qu'elle l'a revendiqué et qu'elle l'a écrit dans cet ouvrage ?
Je dirais qu'elle a fabriqué de la liberté avec les tuiles qui lui tombaient sur la tête. parce que elle a eu une enfance comme mon Dédé, comme mon cher Malraux. Je ne peux pas ne pas parler de Malraux, qui est ma passion première, quand même. Malraux a dit, tous les écrivains adorent leur enfance, je déteste la mienne. Elle était pareille. Elle était née dans la, donc, dans une famille de réfugiés politiques, qui était, son père était donc, a fini en plus, malade et
il est mort
de la
jeune.
Syphilis, d'une maladie honteuse, laissant sa mère se débrouiller toute seule. Elle a vu que sa mère s'y prenait très mal. Donc, elle s'est retrouvée en train de devoir nourrir la famille, si vous voulez. Et là, la première liberté, la première chose intelligente qu'elle a faite, enfin, elle le disait, c'était, comme elle avait vu que l'amateurisme de sa mère conduisait à la ruine familiale, sa mère avait fait une pension de famille où elle invitait que des gens de la famille, enfin, vous voyez. Donc, elle s'est dit, je vais avoir un métier qui ait un nom. Et elle a appris la dactylo.
14 ans et demi, hein. Bac et 14 ans et demi.
Bah
et
oui,
là, elle fait une formation de sténodactylo.
Et parce qu'il fallait en même temps nourrir sa famille, parce que sa mère, ne savait pas gagner de l'argent, parce que c'était quand même, on disait, c'était une femme déclassée, quoi. C'était une bourgeoise très bien élevée, très cultivée, tout ce que vous voulez. Mais ça ne fait pas un métier. Donc elle s'est dit, il faut que je travaille. Elle rêvait de faire médecine. Elle avait un grand-père aussi qui était médecin, une espèce de médecin des pauvres, magnifique. Et c'était hors de question de faire des études de médecine. Je veux dire, là, elle avait ni le temps, ni les moyens. Donc, elle a emprunté un cousin homosexuel dont elle s'était rendu compte que la famille le considérait un peu bizarre, un peu comme ça. Elle disait, elle a toujours fait confiance aux margines, enfin aux gens un peu décalés. Pour le cousin lui a donné, je sais pas, 500 francs ou ce que coûtait l'école Remington. Elle en est sortie en tapant 120 mots par minute. Et quand on tape 120 mots par minute, soudain, on trouve plein de métiers. Vous voyez, c'est une vraie qualification professionnelle et justifiable. Et tout d'un coup, par rapport à sa sœur qui était vendeuse, elle a gagné beaucoup plus d'argent et elle a pu après trouver des endroits où travailler qui étaient intéressants.
Vous disiez, elle s'est fabriquée sa liberté avec les nombreuses tuiles qui lui sont tombées sur la tête. Parmi ces tuiles, donc son enfance, sa difficulté à être une fille alors qu'un père voulait un garçon. Elle l'écrit d'ailleurs, née coupable d'être fille rebelle au pouvoir, je crains qu'il m'en soit resté quelque chose. Mais elle a fait de cette faiblesse de départ une grande force. Mais elle est née aussi dans un univers où on cachait beaucoup de choses. On a entretenu, et elle-même a entretenu ensuite, les secrets sur ses origines, mystères sur les origines et les causes de la mort de son père, parce que vous disiez il est mort de la syphilis, mais pendant très longtemps, on a dit que c'était la tuberculose. Donc la syphilis, c'était une maladie honteuse,
Oui, tout à fait. Dans le premier livre, elle dit mort d'une maladie qu'on ne savait pas soigner à l'époque. Mais et c'était, d'après ce qu'elle a dit à Caroline, le vrai secret
Caroline
de famille.
Caroline Iglesias, sa fille.
C'était le vrai secret de famille. Or, toute la famille le savait. C'est ça l'horreur. C'est pour ça qu'elle n'aime pas les secrets de famille. C'est-à-dire, quelle petite fille, elle ne savait pas ce qu'avait son père. Il était malade, il était à l'hôpital, et elle ne pouvait pas aller le voir. Et elle l'a enterré après, quand même, très jeune, à 9 ans, je crois, elle a enterré son père. Elle ne pouvait pas aller le voir, elle ne savait pas, mais tout le monde savait. C'est-à-dire que toute la famille s'est moquée de sa mère. Parce qu'un mari qui a la syphilis, ce n'est pas comme un mari qui a la tuberculose. Les deux sont des maladies qui sont qu'on ne savait pas soigner à l'époque et on est mort de la tuberculose jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ces deux maladies, d'ailleurs, ont été soignées par la pénicilline, je crois qu'avant, elles étaient mortelles. Et la syphilis était une maladie honteuse et on en mourait fou. Donc c'est pour ça qu'ils étaient dans un asile psychiatrique. Et seulement tout le monde le savait sauf elle. Et après, elle ne l'a jamais, ça n'est jamais sorti sous sa plume. Et même à son petit-fils, elle a pas écrit le nom. Elle en a parlé à propos, par exemple, Jean Renoir qui lui dit, avant d'avoir du talent, il faut d'abord que vous ayez la vérole. Mais voilà, c'est Jean Renoir qui dit ça et elle dit j'ai pas eu la vérole mais j'ai eu voilà. Donc comme ça va. Et je pense que ça a tellement pesé, c'était dangereux et elle a été mise en faiblesse et sa mère en a souffert pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec elle. Donc ça elle ne l'a jamais dit.
Deuxième secret de famille de taille que tout le monde savait et qu'effectivement personne n'a révélé, y compris Françoise Giroud elle-même, c'est l'origine juive de sa famille. La mère a converti ses filles au catholicisme. Alors, vous l'écrivez, Alix de Saint-André, dans votre ouvrage, sous l'occupation en 1942. Mais les origines juives de la famille ont toujours été cachées. Et d'ailleurs, elle avait juré à sa mère mourante sur son lit de mort qu'elle ne révélerait jamais ses origines. Et sa mère, elle l'adorait.
Tout le monde savait qu'ils étaient juifs. Et puis tout d'un coup, ça a été révélé par le petit-fils. Mais sa mère, donc, elle a écrit que sa mère était d'origine séfarade. Ça, elle a écrit dans ses livres que sa mère était d'origine séfarade. Son père, non. Mais que sa mère était d'origine séfarade et qu'elles étaient ce que vous dites. Elle a écrit exactement ce que vous dites, que sa mère s'était convertie et qu'elle lui avait fait jurer de ne jamais le dire. C'est ce qu'elle écrit à son petit-fils, en effet. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on a découvert en enquêtant, c'est que elles ont été baptisées, parce qu'on a cherché. Donc la sœur aînée, pour épouser, en plus un collabo, pas de bol non plus, celui-là. Elle s'est convertie au catholicisme, elle s'est mariée à Saint-Pierre de Chaillot juste avant la guerre avec ce type qui est devenu collabo, puis après elle épousait un résistant, enfin ça c'était sa sœur. Et quant à Françoise et sa mère, Caroline possédait un merveilleux faux certificat de baptême. J'allais dire un authentique faux certificat dont il était évident qu'il était faux, quoique ça a mis longtemps à m'arriver à la tête, c'est qu'elle était inscrite au nom de Françoise. Or, Françoise, c'est un nom de plume qu'elle a pris pour faire de la radio dans les années 30. Et au départ, elle s'appelait France Léa. Et c'était censément un document...
France Léa Gourgi.
Oui, c'était censément un document de 1917, sauf qu'elle s'appelait ça. Elle s'appelait Françoise dessus. Donc, en montant l'enquête, et grâce à Malraux, parce que je me suis souvenu que le début des anti-mémoires, il disait qu'il y avait le curé du Vercors qui disait, qui donnait des faux certificats aux Juifs, mais qui les baptisait quand même, parce que, disait-il, il leur en restera toujours quelque chose. On s'est aperçu, enfin, je vous la fais courte sur l'enquête, qu'en fait, elles ont été baptisées toutes les deux pendant la guerre, par un curé dans l'Allier qui d'ailleurs n'est pas spécialement célèbre pour avoir été un grand résistant ou quoi ou qu'est-ce, qui les a inscrits sur son registre à leur nom en 42 et qui leur a fait un faux certificat magnifique qui dit même qu'elle a abjuré de la religion musulmane. Mais pour être sûr d'éloigner le...
Alix de Saint-André, qu'est-ce qui est faux?
Sa mère ne s'est jamais convertie. Enfin voilà, ce qu'elle a raconté à son petit-fils, c'est-à-dire que sa mère s'était convertie au christianisme et lui avait fait jurer de ne pas en parler, ça c'était pas vrai.
C'était ça qui était pas vrai.
Ça c'était faux. Ouais, ça c'était faux, et qu'elles avaient été baptisées enfants et qu'elles avaient reçu une éducation chrétienne. Ça c'était faux aussi.
Ça c'était totalement faux. C'était donc faux. C'est lié donc à cette histoire de mystère, de secret sur ses origines, qu'elle a quand même elle-même entretenue. Comme vivant dans une saga romanesque, en fait, toute cette vie de Françoise Giroux,
c'est pareil, c'est transformer le malheur en action, parce que vous dites saga romanesque, quand les Allemands sont à vos trousses, ça fait pas saga romanesque.
Non, ça met ça rétrospectivement. Hein,
oui, ça fait au secours, ils avaient, je veux dire, vu le sang juif qu'ils avaient, ils étaient, comment dire, elles dépendaient des lois de Vichy, quoi. Les deux, elles auraient dû être couvertes d'étoiles jaunes, etc. Or, elle a signé le papier disait qu'elle était arienne pour pouvoir travailler dans le cinéma. Mais je veux dire, les Allemands étaient là. C'est normal de pas vous... Surtout si vous devez nourrir votre famille et travailler, de ne pas vous précipiter pour vous mettre vous-même une étoile jaune dessus. Et après, curieusement, je pense qu'on veut protéger ses enfants des problèmes qu'on a eu soi-même. C'est-à-dire qu'elle a eu un problème avec le fait d'être juive. Elle voulait absolument pas transmettre ça à ses enfants. Transmettre l'intelligence, oui, parce que c'était des juifs laïcs qui avaient une vision de la France, de la liberté, de la justice magnifique qu'avait sa mère, ça, oui. Transmettre les camps de concentration ou leur risque de se faire arrêter un matin, non.
Alors après la guerre et après avoir été formée donc sténodactylo, elle est scripte de cinéma pendant quelques années. Elle entre au Elle, tout nouveau magazine féminin tenu par Hélène Lazareff à ce moment-là, qui la nomme directrice de rédaction en 1950. Et puis commence l'aventure de l'Express. On va écouter la voix de Françoise Giroud dans une émission de 1990 sur Antenne 2, parlant de son arrivée à l'Express.
À l'époque où il m'a demandé donc de devenir avec lui, enfin la co-directrice de l'Express qu'il voulait fonder, il n'y avait non seulement pas de femme qui dirigeait un journal non féminin, mais il n'y avait pas de femme chef de service dans la presse. Il n'y avait simplement pas de femme dans la presse, sauf encore une fois dans le journalisme féminin. Mais ailleurs, pas une. Au Monde, il n'y avait pas une femme à la rédaction du Monde. Il n'y avait pas une femme à la rédaction du Figaro. Donc c'était complètement fou de sa part d'aller chercher la directrice d'un journal politique dans un magazine féminin. Ça paraissait complètement fou. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a inventé. Parce qu'il aurait pu m'aimer, il aurait pu me faire des cadeaux et m'offrir des brillants, mais ne pas imaginer de me donner cette responsabilité-là, qui est très très particulière.
Il m'a inventé, dit-elle à propos de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était une idée complètement folle de la faire venir. Nouvelle, pionnière, Alix de Saint-André.
Oui, et puis alors ce qu'il y a de drôle, parce que moi je ne l'ai pas connu, alors là du coup Servan-Schreiber. Donc pour mon enquête, j'ai téléphoné à des tas de dames qui avaient travaillé à l'Express. Je peux vous dire qu'ils produisaient le même effet à toutes. Elles en étaient toutes folles. Elles ont toutes fait pour lui n'importe quoi. Transporter des bombes, tout. Elles étaient sous le charme et sous un charme qui était, comment dire, c'était pas un prédateur et un séducteur du tout. C'était un type qui croyait, qui vous laissait votre chance. Voilà. Il tenait pas, voilà, vous étiez une femme, mais il vous donnait votre chance et il parlait aux femmes d'une façon dont on leur avait pas parlé avant. Et elle était sûre qu'au moins qu'il n'était pas misogyne. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance autour. Il y avait, bon, alors en dehors de ça, on disait que c'était une sorte de Robert Redford, mais il lui manquait 10 centimètres de hauteur. Mais bon, il était très beau. Et voilà, elle lui a dit. Et puis, c'est pareil aussi, à un moment, il va être mobilisé, et envoyé en Algérie. Et tout d'un coup, c'est là où elle va se retrouver, non seulement, c'est pas seulement la petite assistante qui a un gros poste.
Elle se retrouve patronne de presse.
Elle se retrouve là, et c'est là le moment. Elle va se retrouver la patronne de l'Express.
Point de bascule.
Point de bascule, et puis où elle va trouver la... C'est pareil, il y a des types qui vont lui faire confiance. Lui d'abord, mais enfin lui, il n'a pas non plus vraiment le choix. Il doit partir en Algérie faire son service militaire. Et elle va... Il y a des gens comme Jean Daniel, comme Jacques Duquesne, comme ça, qui travaillaient avec elle à l'époque, et qui lui ont fait confiance aussi. Parce qu'ils étaient tous dans la même histoire, dans le même... Et c'était une équipe... toute petite, dans un petit endroit. Ils étaient très mobilisés, ils y croyaient. C'était aussi un journalisme politique.
Alors c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est peut-être pas l'Express qu'on connaît dans sa version contemporaine, actuelle, Alix de Saint-André. À l'époque, l'Express, c'est vraiment un journal de combat, pensé comme tel, pensé d'ailleurs pour soutenir, et c'est tout à fait explicite, Pierre Mendès France.
D'abord Mendès France, alors ça avait marché à un moment avec Mendès France, et après ça a plus marché parce que elle expliquait que ça c'est très intéressant aussi, que c'était quelqu'un qui exerçait très bien le pouvoir quand on lui donnait, c'était génial, il était tout le monde s'en souvient, d'une honnêteté magnifique, mais il ne voulait pas le prendre. Il fallait qu'on lui donne le pouvoir. Il voulait pas se salir les mains et le saisir, quoi. Donc il était sur Mitterrand et lui se détestait et s'aimait, un peu les deux, parce l'autre n'avait aucun scrupule pour prendre le pouvoir. Mais en même temps, il y a un moment pour exercer le pouvoir, il faut le prendre. Pour le prendre, il y a un moment où il faut se salir les mains. Et ce moment-là, Mendès ne voulait pas.
Même si ça n'a pas marché, en tout cas, ils l'ont aidé, Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, avec ce journal qui se voulait résolument de gauche, qui était contre la guerre d'Algérie, qui était pour la décolonisation, qui était pour les droits des femmes, la modernisation de la société française à ce moment-là. C'est dire aussi...
De gauche et économique. Alors c'était ça qu'ils avaient de nouveau, parce qu'ils étaient de gauche, mais ils étaient anticommunistes. Et c'était ça aussi l'originalité. Donc ils essayaient de penser une pensée aussi où l'économie tenait un grand rôle. Elle s'est fait donner des cours d'économie pour pouvoir l'expliquer dans l'Express. Ça aussi, personne n'y croyait. Mais au bout d'un moment, elle a appris. Ce qu'elle savait aussi, c'est apprendre. Françoise, elle apprenait, elle a pris des cours avec un journaliste économique qui était là, elle a déjeuné avec lui jusqu'à temps de comprendre ce qui se passait et de pouvoir l'expliquer. Et une fois qu'elle l'a compris, elle jouait les idiotes dans les dîners en ville. Mais elle avait appris et y croyait à l'économie. Ils essayaient de réconcilier la gauche et l'argent. Enfin, et les économies. Les économies pas capitalistes, enfin voilà, ils essayaient de faire un...
À ce moment-là, en tout cas, donc dans les années 50, le journalisme à travers l'Express avait une réelle puissance, c'est-à-dire qu'il faisait des carrières, les hommes politiques...
On les faisait sauter aussi,
c'était... Oui, ça bougeait, certes, mais 4e République, dangereux. Début 5e, la puissance d'un journal comme l'Express n'a plus rien à voir, encore une fois, avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est dire l'importance qu'avait quelqu'un comme Françoise Giroud à ce moment-là. Une importance politique, une importance intellectuelle, Alix de Saint-André.
Oui, tout à fait. Et puis c'était un climat très particulier, la guerre d'Algérie, la décolonisation, etc. Après, l'Express est devenu, j'allais dire, un journal normal. Et est devenu un magazine, comme le magazine que vous connaissez. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle disait, comme elle l'a dit aussi de elle, quoi, après, une fois qu'un journal est créé, on ne peut pas le défaire. Il est indestructible. C'est comme le L. Jamais L disparaîtra. On ne peut pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'on arrive à la fin de ça. C'est-à-dire que maintenant, les journaux n'ont plus de journalistes. Ils sont devenus des marques. Et ils n'engagent plus de journalistes. Ils engagent des gens du marketing. Et vous avez vu encore, il y a une charrette à elle, il y a une charrette je sais pas où. Il y a des charrettes de journalistes partout. Les journaux n'ont plus besoin de journalistes pour être des purs produits, quoi, des marques, des titres, des voilà.
Alors qu'à cette époque, c'était des journalistes. Elle formait des journalistes et on y reviendra un peu plus tard, Alix de Saint-André. Mais toujours est-il que sa connaissance des milieux politiques, sa fréquentation aussi de ces milieux-là, ces réseaux, peut-être font que elle est appelée par le gouvernement en 1974 secrétaire d'État à la condition féminine. Mais alors là, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être vu comme une contradiction. Mais elle a voté François Mitterrand en 1974 et c'est Valéry Giscard d'Estaing avec comme Premier ministre Jacques Chirac, qui l'appelle au gouvernement. Comment lire ça, cet épisode-là ?
Alors ça, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup, si je peux, je ne sais pas si on a assez de temps, mais ce que j'adorerais, c'est vous lire le chapitre qu'elle consacre à ça, dans Arthur ou le bonheur de vivre. Il faudrait que je trouve le passage où elle raconte pourquoi est-ce qu'on l'a choisi. Elle raconte « Qu'est-ce donc qui a pu inciter Valéry Giscard d'Estaing à venir me chercher à l'Express pour faire de moi un membre du gouvernement ?» Une intuition. Il était l'un des très rares politiques, pour ne pas dire le seul, à avoir compris quelque chose à la révolution des femmes, ce mouvement spontané qui, depuis mai 68, rampait, grondait, s'exprimait parfois jusque dans la rue comme une immense revendication du droit à l'affirmation de soi. Le droit à l'avortement en était le drapeau. Avec son intelligence lumineuse, Giscard avait saisi que ce mouvement n'était pas un remous à la surface des choses, simple séquelle de mai 68, mais une lame de fond. Il s'agissait de la canaliser et de mettre en œuvre, s'agissant des femmes, l'esprit de réforme qu'il entendait insuffler à l'ensemble de la société française. C'est alors qu'il eut l'audace de confier à une femme, Simone Veil, la tâche de faire voter au Parlement le droit à l'IVG, malgré la réticence manifeste de ses ministres, et en particulier du premier d'entre eux, Jacques Chirac. C'est alors qu'il créa le secrétariat d'État à la condition féminine, chargé de proposer de mettre en chantier les réformes souhaitables, et il fallait une femme pour en assumer la charge, le sort tomba sur moi. Choix provoquant pour sa majorité. J'étais plutôt marqué à gauche. J'avais ouvertement voté en 1974 pour François Mitterrand. Jacques Chirac faillit s'en étrangler et fit de son mieux pour que le projet avorte. Il me proposa une, entre guillemets, délégation. J'ai jugé cela injurieux pour les femmes et j'ai refusé. VGE a tenu bon et c'est ainsi que je me suis retrouvé rue de Varennes dans le superbe hôtel de Castres à la tête d'un ministère qui n'existait pas. Il ne restait qu'à l'inventer.
Vous disiez tout à l'heure, Alix de Saint-André, que dans le souvenir qu'on en a, politiquement, elle a été d'une certaine façon occultée ou évincée justement par Simone Veil, qui, elle, a fait passer la loi sur l'avortement. Pourquoi c'est revenu à Simone Veil et pas à Françoise Giroud qui s'occupait de la condition féminine? Ça, vous avez trouvé dans ses écrits un peu plus que ça, ou vous-même avez cherché?
Non, mais c'est pas du tout une loi facile à faire passer. Du tout. Et je pense que Simone Veil, elle avait une espèce d'aura de sainteté et de... Françoise, c'était une journaliste qui avait une vie olé olé, enfin voilà, c'était pas un parangon de vertu. Simone Veil, elle, c'était un peu une sainte laïque, justement,
Donc c'était un choix stratégique.
C'était tout à fait un choix stratégique, et elle a eu beaucoup de mal, et ils ont eu du mal parce qu'il y avait quand même il y avait les gaullistes, personne n'était vraiment et les catholiques, donc il fallait que tout ça, je pense que ça ne serait pas passé si ça n'avait pas été elle. C'était aussi très astucieux. Elle avait pas 5 minutes, il serait moqué d'elle et puis ça aurait été fini. Ça a été très violent et très long et très difficile, le passage de la loi sur l'avortement. Il y a eu un documentaire très bien fait et on voit que à un moment, oui, elle a craqué et curieusement Chirac l'a défendu. Simone, il a défendu Simone, il l'a aidée, mais voilà. Mais je pense que c'était aussi un bon casting. C'était un bon casting de confier à Françoise, qui était quelqu'un d'organisé, une journaliste qui savait diriger des équipes, faire des synthèses, etc. Et bouger un ministère de réforme sur les femmes, et à Simone Veil, si j'ose dire, d'avaler la pilule de l'avortement.
Elle a été un modèle pour des femmes qui voulaient entrer en journalisme à ce moment-là, qu'elle-même prenait à cœur de former. On peut penser à Catherine Ney, à Michel Cotta, à Sylvie Pierre-Brossolette, à Christiane Collange. Est-ce qu'elle l'a été en politique, un modèle pour vous, Alix de Saint-André, à vos yeux?
Je pense pas, d'autant plus que la...
Avant 87, hein, parce que vous nous disiez déjà en 87, d'une certaine façon, elle a été oubliée.
Oui, mais de toute façon, même leur parti, ça a vraiment pas terriblement marché, parce que toute cette merveilleuse machine de l'Express et du Parti, ils ont réussi à faire une aile de plus au Parti radical. Tout ça pour ça, j'allais dire. Les jeunes savent plus du tout qui était Servan Schreiber. Ils se souviennent de Mendès France à cause du verre de lait et des accords d'Évian. Puis elle a toujours été très critique à l'égard, très engagée et très critique, les deux. Donc je ne sais pas si elle a été un modèle, mais enfin, en tout cas, elle n'a pas formé de parti, elle n'a pas... Elle s'est toujours intéressée, elle a toujours été... Il fallait que la politique la maintienne en éveil, en réveil et en énervement. Voilà, ça l'énervait, et donc l'énervement, ça maintient en vie.
Bon, ben voilà qui ouvre sur le deuxième temps de cette émission, Avoir raison avec Françoise Giroud. Surtout, vous restez avec nous, Alix de Saint-André, nous allons accueillir notre deuxième invité.
Écoutez, je crois qu'il y a trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir sur les consciences. Alors ce pouvoir sur les consciences est partagé entre, disons, les églises, les enseignants, la télévision, le vôtre, la presse, donc les journalistes, font partie des gens qui ont du pouvoir sur les consciences. Ils ne s'en souviennent pas toujours. Quelquefois, il vaut mieux qu'ils ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'oseraient plus rien faire. Quelquefois, ils en ont au contraire une conscience extrême. Un journaliste est quelqu'un qui agit sur les autres. Si vous prenez mon cas tout à fait personnel, j'aime bien convaincre, mais sans forcer la conviction. C'est-à-dire, j'aime bien amener doucement quelqu'un à penser ce que je crois juste. Et j'aime bien surtout l'amener à penser qu'on peut penser autrement que lui, ce qui me paraît absolument majeur. J'aime bien rendre les gens tolérants à une autre façon de penser.
Deuxième temps donc de cet Avoir raison avec Françoise Giroud, le temps de la discussion. Que reste-t-il de la figure de Françoise Giroud? Quelle empreinte a-t-elle laissée? En quoi sa conception du journalisme, sa façon d'être une femme et de faire de la politique influence-t-elle encore les générations qui l'ont suivie? Nous a rejoint autour de la table Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes journaliste et écrivaine également, journaliste d'abord de presse écrite, vous avez commencé à Jeune Afrique, puis de radio et télé avec CNews, avec Europe 1, où vous officiez depuis quelques années et où vous allez animer à la rentrée l'interview politique du matin et puis écrivaine, puisque on vous doit notamment Le Monde ne tourne pas rond, ma petite fille, en 2017, paru chez Flammarion. Dans son cœur sommeille la vengeance, paru en 2018 chez Plon. Et vous allez faire paraître un nouveau livre à la rentrée, tout début septembre, un livre sur le bon sens dans notre belle société française. Alors, nous discutons de Françoise Giroud et finalement, comme Françoise Giroud, Sonia Mabrouk, il me semble que vous vous êtes construite un peu toute seule. Vous avez été la première femme tunisienne à présenter le journal sur une chaîne de télévision nationale française, c'était Public Sénat, c'était en 2008, de la même façon qu'elle a été la première femme journaliste à prendre la tête d'un hebdomadaire politique, hein, on le disait tout à l'heure avec Alix de Saint-André. Est-ce que pour vous, elle représente un modèle ?
Alors merci d'abord pour la présentation. Évidemment, comparaison ne vaut pas raison, et je le dis pas par manque de modestie, mais depuis tout à l'heure, j'écoute Alix de Saint-André avec vraiment intérêt. Je dirais, ça me replonge étrangement dans une histoire, dans une époque que je n'ai pas connue. Malgré tout, c'est un modèle. C'est un modèle pourquoi ? Parce que c'est un modèle d'intranquillité. Vous avez aussi employé le mot énervement. Et dans nos sociétés actuelles, je crois que c'est perturbateur. On en a besoin. On l'a entendu là encore avec cette voix quand elle dit qu'elle veut amener quelqu'un finalement à changer de position. Elle n'essaye pas en fait d'imposer son avis, et ce cheminement aujourd'hui c'est une formidable leçon. Donc pour moi c'est un modèle. Moi je suis arrivée à Françoise Giroud à travers justement sa biographie, son livre « Histoire d'une femme libre » et je me souviens très bien, il y a quelques années, le titre m'avait interpellée. Je me dis mais c'est quoi une femme libre ? Et chacun, c'est vrai, vous l'avez très bien dit, Alix de Saint-André, a sa définition d'une femme libre. Elle s'est fabriquée, s'est inventée, finalement, cette statue, on va dire, de femme libre. Et moi, c'est ça ce qui m'a interpellée. Donc, voilà, du fond, fin de ma Tunisie, je me suis dit, une femme libre, c'est une femme qui s'invente un destin. Et un destin, chacun à son niveau. Elle a un destin que moi, j'estime quand même extraordinaire. Et puis après, chacun s'invente un destin à la mesure de ses ambitions et de l'accomplissement qu'il se fait et la manière de voir la vie.
Vous disiez que vous l'aviez rencontrée par son récit autobiographique. L'un de ses, bien, puisque comme nous le disait Alix de Saint-André, il y en a quand même eu plusieurs. Est-ce que vous aviez aussi entendu parler, Sonia Mabrouk, des mensonges, des secrets, des polémiques même, des scandales qui ont parfois entaché sa mémoire? Et c'est aussi pour rétablir cette vérité jusqu'aux origines, jusqu'à ce qui a été faux et qui a été retravaillé, redécouvert par Alix de Saint-André, que ce livre « Garde tes larmes pour plus tard » d'Alix de Saint-André a paru. Est-ce que ça vous a gêné si vous aviez entendu parler de ces histoires-là?
Écoutez, c'est normal.
Je pense aux lettres anonymes, oui, antisémites, je pense à la médaille de la résistance, de la résistance, toutes ces choses qui finalement l'ont poursuivi, et puis on sans doute gêné certaines générations plus jeunes à la découvrir.
C'est normal qu'on s'interroge, c'est normal qu'on questionne. Moi, je n'aime pas qu'on déboulonne des statues. Donc pour moi, ce que vous appelez, c'est des mensonges, je ne la connaissais pas, mais je pense modestement, peut-être que c'était des mensonges par omission quelque part. Ça m'a beaucoup frappé l'échange sur les racines juives. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui était profondément laïque et républicain. À partir de ce moment-là, je me demande si elle n'a pas intégré, même inconsciemment, une forme de distance, tout simplement, qui fait qu'on est d'abord laïque et républicaine avant de mettre en avant ses racines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alix de Saint-André. Je ne la connaissais pas, mais c'est l'image que je me fais.
Tout à fait. Mais en plus, c'était les convictions de sa famille. Ils étaient juifs, mais son père comme sa mère n'étaient pas des gens pieux. Ils croyaient en la France, je vous l'ai dit, liberté, égalité, fraternité. Ils étaient, ça s'appelle maintenant droit de l'homiste. Ils étaient droit de l'homiste à mort, si j'ose dire. Donc c'est normal. Le problème, ce qui vient, c'est qu'après, c'est les questions qui ne sont pas posées par le public, mais par la famille. Et c'est les enfants ou les petits-enfants qui tout d'un coup disent « Mais attendez, c'est pas du tout le public. » Le public suivait les histoires de Françoise et elle était cohérente avec sa pensée. Elle a toujours été, elle a transmis ce qu'elle croyait et elle a caché ce qu'elle trouvait dangereux, je pense.
Sonia Mabrouk, est-ce que la façon de faire de Françoise Giroud, alors là c'est vraiment au-delà de son récit autobiographique, c'est plutôt l'image de la journaliste qu'elle laisse, est-ce que sa façon de faire est une façon justement qui vous inspire ou dont vous pouvez vous inspirer? Je pense notamment à ce qu'on disait tout à l'heure de l'Express, un journalisme qui s'affirme avec une personnalité, de la voix, du caractère, un journalisme avec des guillemets engagés. Ils avaient fait de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber une arme politique. Ça n'est plus le cas pour ce journal aujourd'hui, mais ça peut être le cas de la conception qu'on se fait de ce métier. Est-ce que c'est votre conception ou est-ce que vous considérez que c'est une époque révolue?
Non. Au contraire, pour moi, il y a de formidables leçons et c'est une continuité. Quand je disais l'intranquillité permanente, c'est ce que j'apprécie, j'admire chez elle, c'est-à-dire ce qui faisait sa force, ce qui était une force pour notre société, l'engagement. Mais l'engagement, vous savez, au sens général, c'est-à-dire que c'était une femme engagée presque naturellement. Il n'y avait pas des sujets sur lesquels il fallait s'engager. On parlera tout à l'heure des femmes et de son rapport avec le féminisme. Alors qu'aujourd'hui, quand vous dites journaliste et engagement, eh bien, vous voyez, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'à l'oreille de certaines personnes, c'est comme si le journaliste devait, bien sûr, j'allais dire, de cacher ses opinions politiques, même si nous avons tous nos opinions, il y a une forme un petit peu d'hypocrisie, mais ne devait pas aller dans certains domaines, ne devait pas s'engager sur certains sujets. Moi, je le fais, parce que ça me paraît tout à fait naturel sur des sujets qui sont des défis dans notre société. Alors, je ne compare évidemment pas avec l'époque de Françoise Giroud, mais pour moi, journalisme et engagement, ce n'est pas antinomique, et elle incarnait cela. Elle le faisait avec une élégance et un naturel qui n'est pas forcé, et donc ça sonne juste.
Alix de Saint-André.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand elle était à elle, elle s'est occupée aussi que les Françaises se lavent. Et elle s'estimait qu'elle avait un rôle aussi de, pas des, oui, d'éducation, son, un peu, elle a toujours été quelqu'un, non pas qui donnait des leçons au sens mauvais, mais le journalisme avait une fonction d'abord de vulgarisation. Ça, elle l'a beaucoup fait, d'expliquer aux gens ce qu'on ne comprend pas. Et ce qu'elle-même, au départ, ne comprend pas. Et elle va trouver des gens pour lui apprendre. Comment c'est, par exemple, le plus connu, c'était quand elle était allée voir Lacan. Elle était allée à un séminaire de Lacan. Elle a passé 3 jours à bosser son papier. Et elle vient voir Lacan et elle lui lit son papier. Puis il lui dit, vous voyez bien que je suis claire quand je parle. C'était 3 jours de boulot. Enfin, voilà, il y a de transmission, de partage, je pense. De partage de l'information aussi. L'information, c'est pas un truc pour l'élite, c'est pour tout le monde. Elle avait un côté très populaire. Ses livres se vendaient très largement, c'était très important pour elle. Et son rapport avec ses lecteurs et son public, c'était l'essentiel. Ça la faisait vivre et elle donnait des conseils. C'était des livres qui donnaient des conseils à tout le monde, qui apprenaient à se débrouiller avec ce qui lui arrivait à elle et qui arrive à tout le monde, comme par exemple La vieillesse, une horreur. Bon, bah voilà.
Et si on peut ajouter qu'à cette époque-là, populaire, je veux dire, c'est noble. C'est pas ringard, c'est pas populaire populiste comme aujourd'hui.
Elle écrivait aussi des livres. Elle a écrit des essais, elle a écrit des autobiographies, on l'a dit, mais aussi des biographies. Elle a écrit des romans populaires, c'est-à-dire que ses livres ont rencontré un franc succès.
Et elle adorait ça. Alors moi qui venais d'Hippocaine, vous voyez, genre les études d'Hippocaine, qui pensaient que la littérature...
Elle adorait ça quoi?
Que ça se vende. Quand on était en vacances, elle suivait ça sur les ventes, vous savez, les best-sellers là, dans le journal. Et elle adorait que ses livres se vendent et avoir du succès parce qu'elle avait un vrai public. Elle écrivait tous les jours des lettres aux gens qui lui écrivaient. C'était sincère et c'était honnête.
C'est ce qui agaçait aussi, hein, parce que elle incarnait des réussites. Parce qu'il faut pouvoir s'accomplir dans le journalisme, il faut pouvoir écrire des livres qui se vendent et qui sont lus, parce que malgré tout, pour un écrivain, pour un auteur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, réussir dans plusieurs domaines et s'accomplir dans plusieurs domaines, c'est quand même un exemple assez rare.
Oui, elle a agacé, de fait. Bien vous le disiez d'ailleurs, Alix de Saint-André, au départ. Ben oui, vous-même,
même si elle a agacé.
Elle a commencé par ça. Oui. Elle a agacé, elle a énervé. Est-ce que c'est seulement parce qu'elle avait réussi dans pas mal de domaines? Elle avait une réputation, pour mettre les pieds dans le plat, une réputation d'intransigeance, d'autoritarisme, parfois même, on a pu dire, de méchanceté.
Si vous voulez, moi j'étais sensible à une espèce de... quand je l'appelais vieux... vous êtes un vieux crocodile, parce qu'elle était... Elle avait son côté, elle était sur son rocher, elle n'en démordait pas, en l'occurrence, pour une chose très très... très précise, et surtout, je pense qu'elle s'exprimait bien, mais par écrit. Et dans la vie quotidienne, c'était différent. Elle avait aucun sens de la répartie, elle le disait souvent, elle aimait pas faire des discours en public. Et, comment dire, elle était très bien élevée, donc... Elle se taisait, je pense, beaucoup, mais alors après, quand elle prenait son crayon, ça y allait. Puis, et comme elle était douée et qu'elle avait les paroles justes, bing et bang et bing et bang. Et puis, elle aimait pas les gens qui avaient pas de talent, et puis, elle aimait pas les gens qui travaillaient pas, et puis, elle aimait pas.
Ça fait beaucoup.
C'est oui, mais c'est, ben, voilà, c'est les incompétents, les gens, voilà.
Est-ce qu'on peut pas considérer aussi,
sans forme trouver d'exigence.
De. Oui, une forme d'exigence, et puis, comment dire, une forme de, pas de pudeur par rapport, mais de ne pas révéler, le moindre signe de faiblesse. C'est la fameuse phrase « never explain, never complain ». Voilà. Comment on existe à cette époque-là, qui n'est pas très lointaine, il ne faut pas exagérer, mais comment on se maintient, comment on évolue, comment on s'affirme, eh bien on ne montre aucun signe. C'est encore un peu vrai quand même aujourd'hui. Pour une femme comme elle, je pense qu'elle a dû s'en faire une carapace qui est devenue la peau du crocodile que vous décrivez, non ?
Oui, mais c'était la bonne éducation aussi. C'était une femme bien élevée. Et donc il y avait des choses qu'elle faisait ou ne faisait pas, disait ou ne disait pas, mais elle lâchait la bride quand elle écrivait.
C'est très agréable le pouvoir. Moi j'ai toujours eu du pouvoir, il faut dire, enfin, en tout cas depuis longtemps. Parce que la direction d'un grand journal, c'est du pouvoir. Donc j'avais l'habitude du pouvoir.
Quel est le plaisir du pouvoir ?
C'est plaisant, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir faire quelque chose, décider qu'on va faire quelque chose et le faire, et voir que c'est fait. C'est très très satisfaisant. C'est une réalisation de soi en somme.
C'est pas le pouvoir pour le pouvoir.
Ah non, je ne parle pas du pouvoir sur les personnes. Ça, non, ça c'est affreux, le pouvoir sur les personnes. Ça, j'ai jamais aimé, moi. Non, non, le pouvoir sur les choses qui compte.
C'est comme une création.
Oui, absolument.
C'était très différent d'exercer ce pouvoir-là, donc, au sein de l'Express, par rapport au pouvoir politique.
C'était très différent. Il y a une chose commune, c'est d'avoir des gens autour de soi qu'on fait travailler. C'est-à-dire des gens qui vous sont acquis, qui ont envie de travailler pour vous. Autrement, non, c'est pas une différence formidable. Ce sont les résultats qui sont d'un autre ordre. Parce que quand vous faites un journal, vous avez des résultats chaque semaine. Quand vous êtes ministre, avec un peu de chance, vous en avez au bout de 2 ans. Donc, c'est quand même assez différent.
Comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, à cette archive d'une émission d'A Voix Nue 1996, c'était au micro de Marion Thibault.
Ah bah c'est quand même formidable, Sonia Mabrouk. La manière d'appréhender le pouvoir qui reste, enfin en tous les cas à cette époque-là, c'était une notion qui était très masculine, et en fait elle ne féminise pas la notion de pouvoir, au contraire, elle explique sa perception à elle, qui est formidable, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est le pouvoir de faire, c'est le pouvoir, alors c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, mais de le pouvoir de faire évoluer les consciences. Donc pour elle, qui est à la fois journaliste et politique, le pouvoir, c'est une action. Le pouvoir, c'est pas seulement la réflexion, la vision. C'est une femme, on voit, qui est dans le concret. Donc c'est assez fascinant, ce parallèle entre la femme politique qu'elle est et la femme journaliste, dans le sens c'est quelqu'un qui décrit, c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui est populaire, dans le sens proche des préoccupations quotidiennes. Et en cela, je trouve qu'elle a une définition très très moderne du pouvoir. Et de l'exercice du pouvoir.
Et c'est peut-être une forme, Alix de Saint-André, de pragmatisme qu'on retrouve dans sa conception du féminisme. Parce qu'elle rejetait toute forme d'idéologie. Et on est dans les années 60-70 quand on parle de Françoise Giroud, âge d'or, disons, hein, de Françoise Giroud, bien sûr. Elle avait une conception pragmatique du féminisme, en ce sens que pour elle, le plus important, c'était l'indépendance économique, l'indépendance financière.
Ah, ça, c'était son mantra. Il fallait avoir un métier qui a un nom, ce que j'ai dit. Il fallait être que les femmes devaient gagner leur vie et ne pas dépendre d'un homme pour vivre et avoir l'indépendance. L'indépendance économique, c'était la première. Après, être les meilleures dans leur métier, si c'était possible, mais...
Elle écrit « De mon côté, je pouvais vivre femme », c'est-à-dire me plier à ses horaires, en parlant de Jean-Jacques Servan-Schreiber, en l'occurrence. « Me soumettre à son mode de vie, m'accommoder de ses humeurs, me taire lorsqu'il parlait, me nourrir, m'habiller, m'endormir selon ses goûts, et en être heureuse, puisqu'en même temps... je vivais en homme, c'est-à-dire financièrement indépendante, ne rusant pas pour l'affronter et emporter une décision dès lors qu'il s'agissait de sujets extérieurs à nous-mêmes, compagnon et non lieutenant, dirigeante et non exécutante, autonome dans ma démarche. » Ça en fait une féministe de ce point de vue-là, Sonia Mabrouk, mais peut-être pas la définition de tous les féministes.
Et tant mieux qu'il y ait plusieurs nuances de définition du féminisme. Je pense qu'elle est féministe à travers son travail. Ce rapport avec le féminisme, c'est vrai qu'il faut l'interroger. Alors aujourd'hui, quand on l'interroge, c'est totalement différente de l'époque de Françoise Giraud. Je pense que, évidemment, qu'elle n'était pas une militante féministe comme on l'entend aujourd'hui, avec les slogans, les pancartes, les hashtags, si je puis dire. Et je pense que, comme vous l'avez dit, elle n'aimait pas, c'était pas l'idéologie. Elle n'aimait pas un féminisme revendicatif, affirmatif. C'est-à-dire, c'était une femme qui aimait les hommes, ça on peut le dire, et elle était aux côtés des hommes. Mais on peut être féministe, on peut aimer les femmes aux côtés des hommes. On n'a pas besoin d'être contre les hommes. Et je pense, ça va peut-être faire hurler certains, que c'est une manière très moderne d'être féministe. Moi, j'ai retrouvé un livre qu'elle a écrit avec Bernard-Henri Lévy, où elle parle de ses rapports hommes-femmes. Et c'est très frappant, parce que tout au long du livre, on voit l'évolution qu'elle a de ce rapport avec les femmes. Et on voit qu'il y a une volonté toujours d'être bien avec les hommes, de concilier ses intérêts avec ceux des hommes. Alors, ceux qui vont aujourd'hui écouter, regarder avec les lunettes actuelles vont dire, ben voilà, c'est de l'opportunisme parce qu'il fallait réussir. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une forme d'intelligence, de pragmatisme, de bon sens, tout simplement, où elle avait compris que pour y arriver, mais pour y arriver de manière noble, pour s'accomplir, eh bien, il fallait tenir compte de certains intérêts et que ce n'est pas du tout, c'est pas honteux. Tout simplement.
Avec les hommes, mais au point parfois d'être sans les femmes. On a dit aussi qu'elle a pu être misogyne dans son rapport au travail. Et j'ai retrouvé quelques phrases de son histoire d'une femme libre où elle parle de ce rapport entre les hommes et les femmes ou de son propre rapport aux femmes. Par exemple, ce paragraphe. Le dialogue avec celles que l'on appelle les vraies femmes, et vraies femmes est entre guillemets, m'a toujours été difficile. Leurs confidences me gênent, elles le sentent et me les épargnent. Mais alors, elles n'ont plus rien à me dire. Leur joie et leurs tourments, je les partage, mais elles ne partagent pas les miens. J'aime à les regarder lorsqu'elles sont belles, je les écoute de bon gré, mais je ne sais pas répondre comme elles le souhaiteraient. Il n'y a pas entre nous de connivence. Et un petit peu plus loin, voilà le deuxième. Et puis cette façon qui n'est pas réservée aux femmes, mais que la plupart d'entre elles développent, de ne pouvoir soutenir une conversation qu'en dépeçant, fût-ce avec bienveillance et avec pertinence, les événements de la vie des autres et leur comportement face à ces événements. Cette façon que nous avons tous de supporter avec courage les malheurs d'autrui, de résoudre avec clairvoyance tous les problèmes, d'élever à merveille tous les enfants, de meubler avec goût tous les appartements, de gérer avec sagesse tous les budgets, de gouverner avec maîtrise toutes les passions, à une seule condition, que ce ne soit pas les nôtres. Cette façon, si je ne puis y échapper totalement, je veux du moins essayer.
Allez, oui, c'est bien écrit.
Ah, quelle plume, bravo. Quelle plume.
Non, j'ai retrouvé, vous parliez des trucs avec BHL sur les hommes et les femmes, et elle en a dit, au fur et à mesure que nous avancions dans notre dialogue, je découvris un macho romantique mais rigide, il découvrit une féministe tranquille mais irréductible. Ce fut quelquefois orageux, les choses nous amusèrent ou nous rapprochèrent davantage. Ben voilà, je pense que féministe tranquille mais irréductible, c'est tout à fait ça. Tranquille mais irréductible.
Sonia Mabrouk. Exactement. Mais je pense que dans le paragraphe que vous avez lu également, c'est... Il y a de la provocation de sa part aussi. Moi, je ne peux pas imaginer qu'une femme qui a permis à d'autres femmes, je peux citer les journalistes que je connais, avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, Catherine Ney, Michel Cotta, qui lui doivent sa carrière et qui sont reconnaissantes. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui ait mis le pied à l'étrier à toutes ces femmes soit contre les femmes.
C'est ce que dit Laura Adler dans sa propre biographie intitulée Françoise. Elle dit sa reconnaissance envers Françoise Giroud, car elle nous a, je cite Laura Adler, elle nous a donné la possibilité de croire que nous pourrions, nous aussi, entrer dans ce sacro-saint métier masculin et volontiers machiste du journalisme. Alix de Saint-André.
Oui, elle aimait beaucoup ça. Et ce qui avait drôle, elle disait que Catherine Ney, c'était une grande blonde qui avait un physique de... qui avait une âme de petite brune et que Michel Cotta était une petite brune qui avait une âme de grande blonde.
Oui, bah parce que quand même, il faut dire... Elle était peut-être, Françoise Giroud, à l'origine d'une tradition de séduction dans le journalisme politique français. Parce que Catherine Ney, justement, puisque vous parlez d'elle, Sonia Mabrouk, Catherine Ney, qui faisait donc partie de l'équipe de l'Express avec Michel Cotta, disait Françoise Giroud pensait que des hommes se dévoileraient plus facilement devant des femmes. Et donc avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, ils avaient recruté à dessein des jeunes et jolies femmes, grandes blondes, petites brunes ou que sais-je encore, pour couvrir la politique. Michel Cotta, elle se souvient de Jean-Jacques Servan-Schreiber disant « Vous êtes un bataillon de charme, vous allez les faire parler » et Giroud ajoutant en aparté « Attention quand même, vous mettez les pieds ».
Alors vous savez, si vous dites ça aujourd'hui, parce que j'ai posé la question à Catherine Ney, Michel Cotta et elles y ont répondu souvent d'ailleurs dans d'autres médias. Ouh là là, faut surtout pas leur parler de ça. Bon, c'est un fait. Il y a eu une volonté, on va dire.
pas de proximité, mais d'établir des liens, de tisser des liens pour non pas seulement obtenir des informations, mais raconter véritablement la politique et les coulisses de la politique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous entendez cela, et certains, surtout des jeunes journalistes, peut-être de ma génération encore plus jeune, vont dire « mon Dieu, c'est terrible, comment ça ?»
Ils ont utilisé, instrumentalisé les femmes pour, c'est ça.
Alors honnêtement, pour connaître Michel Cotta et Catherine Ney, en tous les cas, la qualité du travail et la longévité, quand on reste dans ce métier si longtemps et avec une telle image, c'est qu'on a des compétences bien réelles et bien affirmées. Et je pense qu'elles les ont exprimées depuis des années.
Alix de Saint-André, en tout cas, elle a suivi.
C'est complètement un mythe, hein, ça.
Ouais.
C'est un mythe de mecs. C'est un mythe des mecs, des vus par les mecs, vus de l'extérieur. Et ils n'ont pas démenti. Ils n'allaient pas démentir. Je pense que c'est pas vrai.
Bon, en tout cas, une question en rapport aux femmes, elle a aussi suscité des vocations. Et là, je me tourne vers votre livre, Alix de Saint-André, puisqu'à la fin du livre, son petit-fils, Elisha, vous dit qu'il a hérité de son féminisme. Il ne travaille qu'avec des femmes. Donc, et ça, il dit qu'il le doit à sa grand-mère.
Alors ce qui est drôle, c'est pareil, c'est que Françoise ne croyait pas qu'elle survivrait par ses œuvres publiées, quelles qu'elles fussent, mais par ses petits-enfants, et arrière-petits-enfants, et qu'elle avait là-dessus aucune influence. Simplement, elle regardait, elle les observait, et elle se demandait en quoi ils pouvaient lui ressembler ou pas lui ressembler. Et elle a transmis des choses sans... Donc il y en avait un qui voyait le pouce, qui était terrorisé, enfin bon, qui l'a trouvé très intéressante, et l'autre qui travaille plus qu'avec des femmes, il se faisait une idée de cette grand-mère un peu spéciale qui effectivement était baroque, mais qui a été très féconde. Ce qui est assez amusant, les dialogues avec eux sont très, je trouve, très toniques. Quoi. Moi, m'ont énormément surprise.
Alors, Sonia Mabrouk, à sa mort en 2003, Françoise Giroud, même si en 1987, Alix de Saint-André nous rappelait qu'elle n'était pas dans une phase extrêmement connue, il se trouve qu'en 2003, à sa mort, les hommages ont été unanimes. Une pluie et une avalanche d'éloges en tout genre. Elle a été comme une icône nationale. Et puis, bon, plus grand chose à part deux biographies, l'une de Christine Ockrent quelques mois après sa mort et pas vraiment hagiographique, l'autre en 2011 de Laure Adler que j'ai citée tout à l'heure, et puis plus rien. Comment vous expliquez-vous, Alix de Saint-André avait son explication tout à l'heure, j'aimerais la vôtre, comment expliquez-vous ce relatif oubli?
Pour moi, en tous les cas, c'est une injustice. Vous avez évoqué tout à l'heure le parcours politique qu'on peut comprendre, effacé par l'image, le charisme et l'action de Simone Veil. Mais en tous les cas, dans le domaine purement journalistique, moi, il y a une phrase que j'adore, parce que cette phrase, elle m'a guidée. C'est « Ce n'est pas la peine d'avoir du talent à la cinquième ligne si le lecteur vous a quitté à la première. » Mais dites ça à tous les journalistes et ça change tout. Ça change tout. Moi, voilà. Donc, il y a une forme d'injustice. Pourquoi? Comment l'expliquer? Et moi, je pense qu'il faut plutôt combattre ces injustices-là. C'est une mémoire qui doit s'entretenir. Pour moi, elle a toujours été dans mon imaginaire inconscient. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Tunisie. Et cette femme, elle a incarné un modèle, mais je n'imaginais pas du tout devenir journaliste à l'époque, absolument pas. J'étais professeure à la fac, je me destinais à enseigner. Mais il y avait quelque chose, y compris, vous avez passé des extraits dans la voix. Quand une voix est à ce point reconnaissable, et vous sentez d'ailleurs, c'est assez particulier, il y a une forme d'intranquillité, de tranquillité dans sa voix. Elle perce parfois par des moments où on sent de l'énervement, et puis d'autres moments, il y a une forme d'apaisement. C'est une femme qui avait une forme de dualité. Moi, ça m'a toujours fascinée, et c'est une injustice. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, aujourd'hui, si vous demandez à une génération de journalistes, pourquoi ils ne retiennent pas son travail, pourquoi, pour certains, ils n'ont pas lu, je ne sais pas, je vous avoue.
En tout cas,
vous savez, les injustices n'ont pas toutes des explications et des raisons.
En tout cas, un travail de mémoire a été entrepris, notamment par vous, Alix de Saint-André, avec sa fille,
j'ai beaucoup été aidée
Caroline Eliachef, et un prix du journalisme a été créé.
Alors ça, je m'en suis pas du tout occupée.
Par Caroline.
C'est Caroline qui a créé un prix du journalisme, et elle a aussi organisé toutes les archives de l'IMEC. Parce que ça aussi, ce que les biographes du début disaient, c'est que Françoise avait balancé absolument toutes ses affaires, et c'est complètement faux. Tout est bien rangé, il y a des documents, il y a des...
Vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui avez même bien cherché dans toutes ces archives.
Et tout cela est consultable, tout cela est à l'IMEC, et je pense que c'est important que... Et puis en même temps, c'est très bizarre. Je pense que c'est bien qu'il y ait quelque chose qui existe et qu'on ne sait pas ce qui va en sortir. À un moment, il y a un type qui va tomber sur un livre de Françoise Giroud, il va en faire un disque, un film, un truc. On ne peut pas savoir, comme elle, avec ses petits-enfants, elle ne peut pas du tout savoir ce que ça va donner. Je pense que tout est possible, que sa voix, et comme vous le disiez, elle a une voix magnifique et merveilleuse. Ça, c'est... Donc dès qu'on la réentend, une allure aussi, paf, 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 incroyable. Tout est, voilà. Donc tout est là, sur quoi ça va tomber, qui va tomber là-dessus. L'important, c'est que ça existe, et après, hop, on ne sait pas du tout de quelle manière ça va devenir.
Telle
ça va
des panthères, tenons-nous à l'affût de ce qui peut jaillir autour de François Giroud. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Alix de Saint-André, je rappelle quand même le titre de votre ouvrage, Garde tes larmes pour plus tard, accompagné du livre de François Giroud, puisque vous avez contribué à ça, à son édition, Histoire d'une femme libre. Et puis en plus, après, on peut se reporter aux autres biographies, si on le souhaite, et puis bien sûr à tous les livres qu'a écrit Françoise Giroud. Le vôtre, Sonia Mabrouk, est à paraître tout début septembre aux éditions Plon. Il s'intitulera « Douce France, où est passé ton bon sens ?» Un grand merci encore à toutes les deux.
Merci à vous.
C'était Avoir raison avec Françoise Giroud, une émission réalisée par Olivier Bétard, à la prise de son Anthony Thomasson.